Bonsoir à vous Sébastien.
Bonsoir à tous. Airbus et Air France blanchis dans l'accident du Rio-Paris. Les juges ordonnent un non-lieu général 10 ans après la catastrophe. Les familles dénoncent un déni de justice et font appel. Témoignage et décryptage de cette décision dès le début du journal. La réforme des retraites à Matignon, syndicats et patronats de nouveau consultés. Mais toujours rien sur le calendrier et la méthode. Au sommaire également ce soir, le douteux commerce de la mort dénoncé par 60 millions de consommateurs. Peut-être le début de la fin pour Boris Johnson à Londres. Peut-être le début du retour de Bernard Cazeneuve. Peut-être une piste pour le monstre du Loch Ness. Et au téléphone sonne, Fabienne, une piste?
Eh bien oui, vous avez 40 ans ou pas encore. Vous êtes déjà rincé par le travail. Pénibilité, conditions de travail, démotivation. On en parle parce que l'absentéisme au travail ne cesse d'augmenter. C'est ce que disent des chiffres très récents. Et surtout, il fait un bond pour les congés longue durée des moins de 40 ans. Que dit l'entreprise et que fait l'entreprise surtout? 01 45 24 7000.
France Inter.
C'était le 1er juin 2009. Le vol AF447 entre Rio et Paris s'abîmait dans l'Atlantique avec 228 personnes à bord. Accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. 10 ans après, les juges chargés de l'enquête prononcent donc un non-lieu général pour Airbus et pour Air France. Ils ne suivent pas les réquisitions du parquet qui réclamait en juillet un procès seulement pour la compagnie. Alors ça avait déjà indigné les familles des victimes. Elles le sont encore plus aujourd'hui. Ophélie Touliou a perdu son frère dans l'accident.
On est sous le choc. En tout cas, le non-lieu général, c'est quelque chose qu'on avait mais pas imaginé. Pas de procès du tout, c'est juste mais ubuesque. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Aujourd'hui, on veut blanchir Airbus et Air France. On ne veut plus entendre parler de ce dossier parce que ça causerait trop de tort à ces deux entreprises qui sont le fleuron de la France et de l'industrie aéronautique. C'est juste un scandale et on est persuadé que des instructions ont été données. Il n'y a pas d'autre possibilité. On s'est dit, les familles, elles vont s'essouffler et puis au bout d'un moment, on arrivera tranquillement à un non-lieu. Je vais vous dire profondément, nous, on croyait justement à la justice jusqu'alors. Des fois, on avait des doutes, mais on se disait non. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'y crois plus. Et on lâchera rien parce que ce qui se passe, c'est juste un scandale. Que ça veut dire très clairement que le constructeur Airbus ne sera jamais mis en cause.
Voilà pour la colère et l'incompréhension des familles des victimes recueillies ici par Corinne Audouin. Famille qui, pour certaines, font appel de cette ordonnance, comme d'ailleurs le syndicat de pilotes de ligne SNPL, qui qualifie le non-lieu général d'insupportable et scandaleux. Bonsoir Jean-Philippe Deniaud.
Bonsoir Sébastien.
Comment les juges justifient-ils cette absence de responsabilité pénale?
Eh bien, ils concluent à une faute directe de l'équipage qui, face à la défaillance des indicateurs de trajectoire de l'appareil, aurait dû réagir. Ils auraient dû, car, écrivent les magistrats, de nombreux autres équipages confrontés à une situation similaire avaient réagi. Ils auraient dû car ils avaient suivi la formation spécifique à ce type de situation. Alors cette analyse, vous l'avez dit, contredit complètement celle qu'avait formulée le parquet il y a 2 mois qui avait demandé le renvoi d'Air France en correctionnel au motif que les pilotes du vol AF447 n'avaient pas suffisamment suivi de formation et surtout ils n'avaient pas été correctement informés des précédents incidents similaires survenus sur les A330. Aujourd'hui, les juges d'instruction balayent donc cette analyse. Des rapports d'incidents avaient été communiqués aux pilotes. Par ailleurs, parfaitement formés à l'exercice de leurs fonctions, insistent les magistrats. Ils concluent que rien ne permet d'établir une faute directe d'Air France, ni même une faute indirecte mais certaine. Il n'y a là que des fautes de pilotage, ainsi qu'une conjonction d'éléments qui ne s'étaient jamais produites auparavant. On saura dans les heures qui viennent si le parquet général de Paris décide lui aussi de relever appel de ce non-lieu.
Comme le font certaines familles. Merci Jean-Philippe Deniaud.
Fixer un âge pivot à 64 ans.
Ou conserver une durée de cotisation de 43 ans. Les partenaires sociaux sont à Matignon jusqu'à demain. Deuxième série de rendez-vous après 1 an et demi de discussion avec Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, qui prône lui un système universel par points et l'âge de départ à 64 ans. Là où Emmanuel Macron préfère une modulation de la durée de cotisation. Syndicats et patronats défilent dans le bureau d'Edouard Philippe, mais ils n'ont pas d'infos sur le calendrier et la méthode. Alors à la sortie, le patron de la CFDT, Laurent Berger, parle de discussions ouvertes, mais pas faciles. Il est au micro de Laurent Kramer.
Pendant de nombreux mois, 2 années, on a souvent senti que c'était plutôt fermé. Est-ce que c'est ouvert aujourd'hui? Ça se mesurera aux résultats obtenus. Après, on verra. Je pense que la discussion, elle s'annonce compliquée, très compliquée. Mais en tout cas, il n'a pas dit, voilà, ce sera le rapport, voilà ce qu'on veut. Et donc, finalement, on voit bien qu'avec cet âge pivot, le débat, il a dévié, il est parti sur autre chose. On a l'impression maintenant qu'on est en face d'une nécessité budgétaire avec cette réforme des retraites. n'y a pas, je le répète, de nécessité budgétaire urgente. Et donc, si cet âge pivot, il concentre cette idée que c'est l'âge qui serait l'enjeu, et travailler plus longtemps qui serait l'enjeu de cette réforme, on se plantera. Donc la CFDT, elle veut une réforme qualitative. On a aussi abordé la question de la gouvernance, on n'a pas de réponse sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un partage des responsabilités et que ça ne peut pas être un système étatique, le futur système des retraites.
Et donc, suite des consultations demain, avant plusieurs journées de manifestations déjà prévues pour le courant du mois de septembre. Cette enquête maintenant de 60 millions de consommateurs sur le business de la mort. Le magazine dénonce les contrats d'assurance obsèques ruineux qui permettent de débloquer un capital pour financer le décès d'un proche, mais qui souvent coûtent plus cher que l'argent reçu. 4,5 millions de Français sont concernés. Le journal met aussi le doigt sur une autre dérive autour des crémations, la revente des prothèses et autres dents en métaux précieux. Christelle Pangrazi est rédactrice en chef adjointe du magazine. Elle est avec Marie Bernardo de France Info.
Quand les corps sont incinérés, les crématoriums récupèrent les métaux précieux, les dents en or ou par exemple les métaux liés aux prothèses. Les crématoriums passent par des intermédiaires pour vendre ces métaux. On peut se dire que c'est plutôt vertueux parce que ces matériaux finalement sont recyclés, sauf que les familles des proches ne sont absolument pas prévenues. Ça pose quand même un problème éthique puisque, rappelons-le, depuis 2008, en fait, les cendres ont le statut de corps. Les crématoriums n'ont pas l'obligation de prévenir les familles. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même des sommes qui sont extrêmement importantes. Nous, on a contacté deux intermédiaires. L'un d'entre eux récupère entre 10 à 12 tonnes de matériaux par an. Ça fait un chiffre d'affaires de 700 000 euros.
La Fédération française de crémation parle de son côté d'un faux problème. Elle regroupe plusieurs associations de bénévoles qui aident les familles. Et voici sa présidente, Frédérique Plaisant.
Ça ne nous choque pas en tant que Fédération française de crémation, puisque nous connaissons chacun des crématoriums. Nous ne gérons pas et nous ne construisons pas de crématorium, mais nous essayons avec nos associations de participer, lorsque les élus le souhaitent et les gestionnaires de crématoriums, à des comités d'éthique. Nous savons qu'effectivement, il y a des sociétés spécialisées de recyclage qui récupèrent l'ensemble des matériaux issus de la crémation. Les dents en or, il doit y en avoir, mais ça doit être quelque chose quand même de assez minoritaire. Ces fonds, normalement, en partie, sont réinjectés soit dans le fonctionnement d'un crématorium, dans le budget global, ou soit dans la remise de dons à des associations caritatives.
Pourquoi les familles n'en sont pas informées ?
Je pense que ça n'est pas dit tout simplement parce qu'on ne pense pas que ça puisse intéresser les familles. Et je vois mal aussi un gestionnaire d'équipement dire à la famille « Le recyclage des métaux seront à votre charge et on vous facturera le traitement et le recyclage de ces métaux. »
La présidente de la Fédération française de crémation avec Rémi Brancato. C'est le premier verdict de la première cour criminelle, nouvelle juridiction qui permet de juger des crimes sans jury populaire. Elle est installée à Caen. Et pour cette première affaire, c'est un homme accusé de tentative de viol qui a été jugé. Vous avez suivi les débats. Bonsoir Marcelin Robin.
Bonsoir.
Et cet homme écope de 2 ans ferme aménageable.
Oui, tout à fait. Contrairement aux assises, une affaire en cour criminelle est jugée pendant une seule journée. Pour gagner du temps, il n'y a pas eu de tirage au sort ce matin pour constituer un jury populaire, puisque cette nouvelle juridiction est composée de 5 magistrats professionnels. La personnalité de l'accusé a été examinée, comme aux assises, mais la présidente a lu elle-même les rapports d'expertise psychologique et psychiatrique. D'habitude, les experts viennent à la barre présenter leurs travaux et répondre aux questions des juges. Cette première affaire était particulière. La plaignante est décédée dans un accident de voiture en 2012 et sa famille ne s'est pas portée partie civile. Il n'y a pas eu de témoins à entendre et à questionner. Il faudra donc attendre un peu avant de faire un premier bilan constructif de ces cours criminelles. L'avocate de la défense, elle, est satisfaite par ce premier verdict. Il n'y aura pas d'appel. Maître Sophie Lechevrel ne sait pas si un jury populaire aurait rendu une autre décision. En tout cas, pour elle, un procès aux assises sur plusieurs journées n'étaient pas nécessaires.
Marcelin Robin, merci, en direct de Caen. C'était le cloche-merle de l'été. Les propriétaires d'une résidence secondaire sur l'île d'Oléron contre leur voisine et son coq Maurice, trop bruyant à leur goût. Eh bien, la justice donne raison aux gallinacés. Elle rejette la plainte et condamne les voisins agacés à 1000 euros d'amende.
19h09 sur France Inter. Bernard Cazeneuve va-t-il faire son retour ?
Les socialistes s'interrogent, qui tiennent leur journée parlementaire jusqu'à demain à Avignon. Le dernier premier ministre de François Hollande veut proposer un chemin de transformation, ce sont ces mots, à la fois social-démocrate et vert. Bonsoir Marc Potvin.
Bonsoir à tous.
Vous l'avez suivi au rendez-vous du PS à Avignon, Marc.
Oui, tout à fait, avec un discours de plus d'une heure et demie, largement consacré à l'écologie. Une écologie qui va de pair avec la question sociale. Les deux sont liés, explique l'ancien Premier ministre.
Nous savons parfaitement que le réchauffement climatique, la question environnementale, se posent avec d'autant plus d'acuité que ceux qui s'y trouvent confrontés sont plus pauvres. Que les sécheresses, les inondations, les ouragans touchent les populations les plus vulnérables.
Pas besoin d'aller si loin pour constater les effets néfastes du changement climatique. Bernard Cazeneuve, passionné de botanique, prend l'exemple des insectes qui désertent nos jardins. Mais cette prise de conscience écolo n'est pas un virage à 180 degrés. L'ex-premier ministre refuse de renoncer à l'énergie atomique.
Je ne pense pas qu'il soit possible d'atteindre les objectifs de politique énergétique décarbonés que nous avons à atteindre si nous ne créons pas les conditions d'une diminution progressive du nucléaire dans le mix énergétique, mais dans le maintien de cette énergie dont nous devons continuer à accompagner les travaux de recherche.
Voilà qui risque de déplaire aux écolos, mais peu importe, ce grand oral se joue devant des parlementaires socialistes. Dans l'assistance, certains verraient bien Bernard Cazeneuve en homme providentiel à gauche à la prochaine présidentielle en 2022. Une figure du PS tempère leur enthousiasme. Tous les champions du monde annoncés plusieurs années à l'avance n'ont pas tous accédé à l'Élysée, explique-t-il, et de citer l'exemple d'Alain Juppé, ultra favori avant 2017, et finalement défait à la primaire de la droite.
Marc Potvin en direct d'Avignon avec Jérémy Thuil, Bernard Cazeneuve que l'on reverra dimanche à la fête de la Rose à Maraussan, près de Béziers. Ce n'est pas sa semaine à Boris Johnson, décidément. Le Premier ministre britannique ne peut plus compter que sur des élections anticipées pour retrouver une majorité. Les communes voteront lundi sur le sujet. Et voilà que son frère Joe quitte le gouvernement. Cet opposant au Brexit sans accord explique qu'il était déchiré depuis des semaines entre loyauté familiale et intérêt national. Il a donc choisi son frère. Pendant ce temps, s'accroche et répond aux attaques. Question tout à l'heure d'une journaliste. Promettez-vous de ne pas aller à Bruxelles négocier un nouveau report? Réponse de Boris Johnson.
I'd rather be dead in a ditch. What on earth is the point of a further delay? It's totally pointless.
Ça servirait à quoi un nouveau délai? Je préfère crever dans un fossé, répond Boris Johnson. Ça n'a absolument aucun sens. Que pense-t-on de tout ça à Bruxelles? Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Et notamment de ce report du divorce?
Eh bien, on dit ici très officiellement côté commission qu'un report n'est pas à l'ordre du jour. Mais tout le monde sait bien que ce sera peut-être à l'agenda du prochain Conseil européen, les 17 et 18 octobre prochains. Rappelons qu'un troisième report ne peut être décidé qu'à l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement. Mais cela ne réglerait rien pour Amélie de Montchalin, car diluer un problème dans le temps ne permet pas de le résoudre, a déclaré ce matin sur Radio Classique la secrétaire d'État française aux affaires européennes. Ce que l'on sait, c'est que les Allemands sont, eux, un peu plus souples sur le sujet. Les négociateurs britanniques toujours présents ici continuent en fait de leur côté à discuter avec l'équipe de Michel Barnier, mais à ce stade ils n'ont proposé aucune alternative crédible au backstop selon un porte-parole. Plus personne de toute façon ne croit à un nouvel accord d'ici 5 semaines. Reste donc l'hypothèse de nouvelles élections au Royaume-Uni avec un nouveau gouvernement, ou bien si le chaos politique persistait et que ce report était demandé par Londres, eh bien il sera sans doute difficile pour les 27 de refuser une nouvelle extension.
Ce qui est sûr, c'est qu'on se prépare aussi chez vous au no deal.
Oui, la Commission a annoncé hier qu'elle débloquerait en cas de Brexit désordonné une partie du Fonds de solidarité européen dévolu aux catastrophes naturelles, jusqu'à 780 millions d'euros pour indemniser les États les plus touchés et pour aider, sous condition, les travailleurs impactés.
Angélique Bouin, merci, en direct de Bruxelles. Dorian, en approche des côtes américaines, l'ouragan est de nouveau en catégorie 3, avec des vents à 185 km/h et un risque de montée des eaux dangereux à cause des pluies diluviennes. Il est en ce moment à 75 km de la Caroline du Sud, mais le bilan devrait être moins lourd qu'aux Bahamas, où il était à son maximum classé 5. Sur l'échelle de 5, il y a au moins 20 morts, d'après les autorités de l'archipel. Les désordres du climat encore au cœur de la visite du pape au Mozambique, l'un des pays les plus pauvres du monde, où le pouvoir et la rébellion viennent de signer un accord de paix et où l'on tente de reconstruire après le passage de 2 cyclones en mars et en avril dernier. Message du chef de l'église catholique à la jeunesse mozambicaine dans le stade de Maputo où se trouve Bruce de Calzin.
Vous êtes important, vous êtes la joie de ce pays, a lancé le pape aux 5000 jeunes réunis dans le stade. Des jeunes qui spontanément se sont mis à crier. La réconciliation d'un peuple pour ces jeunes, qui représentent la majorité du Mozambique. Près de la moitié ont moins de 15 ans. Le pape les a engagés à sauvegarder notre maison commune, 6 mois après les cyclones Idai et Kenes.
Malheureusement, il y a quelques mois, vous avez souffert du passage de 2 cyclones. Vous avez fait l'expérience des conséquences de l'effondrement écologique que nous affrontons.
Un message que Caldira Alfares, à 28 ans, a bien compris, même si elle était à Maputo lorsque les cyclones ont dévasté le nord du pays.
Ça a été un moment très difficile, mais cela m'a aidé à comprendre qu'il faut prendre soin de l'environnement pour éviter ce genre de situation, car tout cela est aussi de notre faute. Parce que nous maltraitons la planète alors que la planète a besoin d'être préservée.
Le pape n'a pas pu se rendre sur place pour des questions logistiques et parce que la reconstruction débute à peine. À Maputo, Bruce de Galzin, France Inter.
L'environnement encore avec cette décharge sauvage géante à cheval sur 3 communes des Yvelines, Carrières sous Poissy, Triel-sur-Seine et Chanteloup-les-Vignes. 7000 tonnes de déchets et bientôt une plainte d'une association, Alexandre Berthaud, qui veut attaquer l'État en justice après une enquête sur place pour démasquer les pollueurs.
Grâce aux emballages ou à certains documents écrits retrouvés au milieu de l'océan de déchets, l'association a pu remonter jusqu'à une 40aine de chantiers et identifier ensuite une 20aine d'entreprises pollueuses. Anthony Effroy, président de Rives de Seine Nature Environnement.
Ce qui nous surprend, c'est qu'il y a dans ces entreprises quasiment des multinationales ou des sociétés qui bénéficient de certifications type certification ISO 14001 ou ISO 9001 et qui travaillent avec des collectivités qui sont également spécialisées dans le traitement de déchets.
Parmi la liste des pollueurs, on trouve aussi des entreprises de prêt-à-porter, une pizzeria ou encore une société de production de films. Les résultats de cette enquête, ils ont été transmis à la brigade antifraude de Conflans dès 2018, mais depuis, rien, aucune suite judiciaire. Alexandre Farot, l'avocat de l'association.
Je ne comprends pas pourquoi les pouvoirs publics, alors qu'ils font des effets d'annonce, ne prennent pas la mesure de ce problème. C'est-à-dire qu'il faut faire savoir aux contrevenants qu'on ne peut pas impunément se débarrasser de ces déchets, dangereux ou pas, dans la nature.
Pour redynamiser l'enquête, l'association RSNE va donc déposer plainte contre X afin qu'un juge d'instruction soit désigné. Si les fautifs sont condamnés par la justice, ils pourront être forcés, comme l'entreprise SIDEM en 2017 dans l'Essonne, à dépolluer le site.
Reportage France Bleu Paris signé Alexandre Berthaud.
Les encouragements d'Emmanuel Macron au 15 de France.
Le chef de l'État est venu voir les joueurs et l'entourage à Marcoussis avant la Coupe du Monde de rugby qui commence dans 15 jours au Japon. Et en gros, il leur a dit « Oubliez que vous n'avez aucune chance, sur un malentendu ça peut marcher ».
Vous n'êtes pas les favoris de cette compétition, on le sait bien. Et vous vous êtes bien fait secouer ces derniers temps, on le sait aussi. Et y compris par tous les commentaires qu'on a pu lire, et je sais combien ça peut être blessant, dur et... combien c'est désagréable. Mais je sais une chose, c'est qu'en sport, rien n'est jamais écrit. Il n'y a pas qu'en sport, vous me direz, mais en sport, c'est aussi vrai. Et si on avait le résultat d'une compétition au début, ce ne serait pas la peine d'y aller. Je suis sûr d'une chose, c'est que sur le terrain, celui qui a peur, celui qui ne croit pas en lui, il n'a aucune chance de gagner. Et donc, ayez confiance en vous. Parce que moi, j'ai confiance en vous et les Françaises et les Français aussi.
Emmanuel Macron a confiance. Fait confiance au 15 de France. C'était tout à l'heure à Marcoussis au micro de Vincent Pellegrini. Pas sûr que ce soit suffisant. On termine avec ce mystère du monstre du Loch Ness, peut-être en partie résolu. Jusqu'ici, on a vu que des photos floues. On a entendu que des récits douteux et de vagues enregistrements. Mais pendant un an, une équipe de scientifiques néo-zélandais s'est installée au bord du plus célèbre lac d'Écosse. Elle a fait tout un tas de prélèvements, notamment d'ADN des eaux pour identifier cette créature. Et Sébastien Baer, eh bien, ils viennent de rendre public les résultats de leur travail.
Pas d'esturgeon géant, pas de requin du Groenland, pas non plus de poisson-chat. Aucune trace génétique de ces animaux n'a été trouvée dans le loch. Mais parmi les 250 échantillons d'eau testés, les chercheurs ont identifié à plusieurs reprises des ADN qui appartiennent à des anguilles. Le monstre est-il donc une anguille géante? La possibilité était déjà évoquée dès les années 30. L'hypothèse colle en tout cas aux témoignages de plongeurs qui, ces dernières années, ont observé des anguilles aussi grosses que leurs jambes dans le Loch Ness. Tout à fait plausible pour Adrian Schein, qui a participé à la campagne de recherche cette année.
Les anguilles que nous avons mesurent environ 1 mètre de long, mais parfois, par mutation génétique, les espèces peuvent devenir gigantesques et au moins doubler de volume. Cela peut correspondre aux observations faites par certains témoins dans le loch, mais en revanche, ça ne colle pas avec les récits qui évoquent une grande tête hors de l'eau.
Les tests ADN ont été pratiqués sur des fragments de peau, d'écailles, de plumes et de déjections retrouvés dans le loch. Après 86 années de spéculation, le mystère n'est quand même pas complètement résolu. Les chercheurs parlent d'une simple hypothèse. Voici d'ailleurs la conclusion de Neil Gemmel qui a conduit les études. Peut-être qu'il y a un monstre dans le Loch Ness, mais on ne l'a pas trouvé.
Et peut-être que c'est une anguille, le monstre du Loch Ness.
Ça ne m'étonnerait.
C'est décevant. Hein.
Moi, je pense que c'est la CIA qui a mis un monstre à l'intérieur du Loch Ness.
Peut-être Boris Johnson.
Oh, taisez-vous. Vous êtes mauvais. Sébastien Poirot, merci beaucoup. Allez, ne bougez pas, on reste ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée avec nous.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Elodie Calac, attention aux pluies sur l'extrême sud-est.
Oui, un temps agité entre le Var, les Alpes du Sud, le nord de la Corse. On attend des pluies soutenues, parfois orageuses, dès cette nuit. Elles persisteront demain des Alpes du Sud jusqu'au nord de la Corse. Du Jura au nord des Alpes et au Varlin, un ciel nuageux demain, parfois inondé sur le sud de la Corse. Des nuages aussi près de la Manche, plus épais l'après-midi à l'approche d'une perturbation. On aura du vent également qui se renforcera jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. Et puis ailleurs, beaucoup de soleil, mais toujours ce vent fort autour de la Méditerranée, Mistral, Tramontane, jusqu'à 80 km à l'heure.
Et sinon, fraîcheur le matin.
Oui, 3 à 10 degrés au nord le matin, on peut sortir une veste, 6 à 13 au sud, 15 à 18 sur le sud-est. Et l'après-midi, 18 degrés à Brest, 21 à Lille, à Mulhouse, 22 à Paris, Nevers, Lyon ou Limoges, 23 degrés à Nantes, 24 à Bordeaux, à Toulouse, 25 à Nice et puis on ira même jusqu'à 28 degrés à Montpellier.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.